Vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité.
Son témoignage.
Son parcours.
Son expérience.
Des chroniques.
Géopolitique.
Juridique.
Linguistique.
Bonjour, vous êtes sur une émission de Radio Saint-Ferréol 94.2.
Ici et d'ailleurs, nous sommes très heureuses de recommencer en fait une nouvelle année parce que ça fait on a déjà fait deux saisons, enfin deux années complètes d'émissions de Ici et d'ailleurs, qui nous a permis de rencontrer énormément de gens, des gens super, des très belles rencontres et ça nous a permis de donner la parole à plein de gens qui habitent à Creil, qui viennent d'ailleurs et qui ont plein de choses à raconter. Aujourd'hui, ben pareil, pour préparer cette émission, ça a été une très belle rencontre avec Dinara, qui habite à Creil, qui vient du Brésil. Bonjour Dinara.
Bonjour.
Nous pensions commencer cette émission avec un petit point, un rappel sur la situation politique au Brésil. Mais en fait, Dinara est arrivée en nous parlant de l'actualité brûlante, c'est le cas de le dire, des incendies qu'il y a en ce moment au Brésil. Donc, je pense qu'on va commencer par ça, parce que c'est ce qui se passe. Oui. À l'heure actuelle, quoi.
Ouais, exactement. Je suis ce week-end par ma famille au Brésil, qui à cause d'une sécheresse jamais vue à cette période de l'année au Brésil, il y a beaucoup de départs, des milliers de départs de feux de forêt en Amazonie, ce qui fait que le Brésil est arrivé cette semaine au ranking de pays le plus pollué au monde, parce qu'il a fumé des incendies, elle a touché tout le pays. Voilà.
Et tu parlais de São Paulo tout à l'heure?
Ben, c'est... tout le pays, São Paulo, j'ai mon frère à São Paulo, j'ai ma famille dans le sud du Brésil, et ils sont tous touchés par ça. Le ciel est complètement plein de fumée. Voilà.
D'accord. Terrible, ouais, c'est terrible comme situation.
Ouais, ouais. Ouais. Pour des gens qui ne croient pas au changement climatique.
Oui, voilà. C'est une nouvelle preuve du changement climatique.
Ouais, ouais.
On va peut-être passer à l'actualité politique. Oui. Donc, on avait prévu de faire, en introduction, de passer un enregistrement d'une émission d'Arte qui s'appelle L'essentiel du dessous des cartes, qui était consacrée au Brésil. Cette émission a été réalisée au lendemain de l'arrivée au pouvoir de Lula pour la deuxième fois, donc en 2023. Oui. Et puis, je propose qu'après, on commente cette actualité et on parle de ce qui se passe en ce moment.
Ok, d'accord.
Ville commune, bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Le nouveau visage du Brésil, le voici, celui de Lula. Sourire de soulagement après sa victoire sur le fil contre le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. L'ancien président de gauche revient aux commandes après 12 ans d'absence, près de 2 ans de prison pour des condamnations de corruption, annulées par la suite, et une campagne à couteau tiré contre le président sortant. Un perdant qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Il menace de contester les résultats. Lula, l'ancien métallo, leader du Parti des travailleurs, fait son retour dans un pays très divisé. Un pays qui reste aussi l'un des plus inégalitaires au monde, la faim touche 33 millions de Brésiliens. Ce sera sans doute l'un des plus grands défis de Lula. L'occasion pour nous de revenir sur le bilan de ses premiers mandats et sur les inégalités ancrées dans le territoire. On voit ça avec nos cartes. En 2022, les 10% les plus riches bénéficient à eux seuls de 58% des revenus du pays et 2/3 d'entre eux sont blancs. Pourtant, sous l'ère Lula de 2003 à 2011, les pauvres et la classe moyenne ont bénéficié des programmes sociaux mis en place par le gouvernement, notamment la Bolsa Familia, bourse familiale. Le principe, si les familles pauvres envoient leurs enfants à l'école, elles reçoivent une allocation. Autre avancée sociale sous Lula, le programme Fome Zéro, Faim Zéro, qui garantit l'accès aux produits alimentaires de base. Mais ces programmes n'ont pas suffi. Sous Bolsonaro, les inégalités se sont même aggravées. Elles vont de pair avec un déséquilibre territorial qui s'est également accentué. Les régions les plus blanches, le sud et le sud-est, sont aussi les plus riches. Avec notamment ce triangle de 30 millions d'habitants formé par São Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte. Des régions qui concentrent les lieux de pouvoir, l'agriculture commerciale, les fleurons de l'industrie et le tourisme. À l'inverse, Regardons maintenant le Nord-Est, deuxième région par son étendue et par sa population, mais son PIB ne dépasse pas 13% de la richesse nationale. Autre dossier brûlant qui attend le président Lula, la déforestation de l'Amazonie. Elle a augmenté de 70% sous Bolsonaro. Si Lula met bien en place le code forestier prévu dans son programme, ce sont 7,6 millions d'hectares de forêt qui pourraient être épargnés d'ici 2030. Un enjeu pour toute notre planète. Voilà, c'est la fin de cet essentiel du Dessous des Cartes. À bientôt.
Dinara, donc on vient d'entendre un petit résumé très rapide, ouais. Comme je disais tout à l'heure, qui a été réalisé par Arte en 2023.
Oui.
Et effectivement, ces élections ont été contestées. Et même de manière très violente, oui. Qui ont rappelé un peu ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, au Capitole. Maintenant, ça fait un an et demi que Lula est président. Quel bilan on peut tirer aujourd'hui et quelle est l'impression que tu as de ce qu'il a pu faire depuis un an et demi où il est là?
Ben, Lula, comme le reportage l'a dit au début, la victoire, elle était sur un fil. Donc, il est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés. Donc, pour passer les lois et les changements qu'il veut imprimer dans le pays, il est obligé de faire des coalitions, de créer des compromis. C'est un mot très à la mode. Et faire des compromis pour pouvoir faire passer des lois et des projets importants pour le pays. Comme par exemple, il y a annulé la loi qui autorisait, après un incendie de forêt, que la terre devienne agricole. Parce que c'est ça qui s'est passé pendant le gouvernement Bolsonaro, c'est que la terre elle était brûlée par des personnes qui avaient intérêt à continuer à cultiver du soja, du blé, du maïs en culture intensive, parce que c'est une absurdité ce qui se passe dans le pays. Donc, il a réussi à faire voter cette loi. Il a créé des programmes de construction des maisons pour améliorer la situation des personnes qui n'ont pas de logement, parce qu'il y a une occupation sauvage des terres. Et l'inégalité dans le pays, elle est toujours existante et très forte. Lui, c'est un monsieur qui est déjà âgé. Je m'en souviens plus, il a 74, 75 ans. Mais c'est quelqu'un qui va laisser une marque profonde dans le pays, même si le pays est divisé aujourd'hui. Mais au moins, depuis la dernière fois que je suis allée dans le pays, Lula, il était déjà président. La situation elle a changé. On sent qu'il y a plus des paix, moins des discours, des haines et des opposer les gens, opposer les personnes, opposer la société, mettre les uns contre les autres. Ces discours, ils étaient très, très, très présents pendant le gouvernement Bolsonaro. Donc aujourd'hui, ça se calme un peu. Bien sûr, c'est un pays tellement grand que c'est compliqué d'y analyser, faire une analyse globale, parce que chaque région a ses spécificités.
Et tu dis que le pays est moins divisé. Là, le 7 septembre, il y a eu une manifestation des partisans de Bolsonaro. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui?
Ben, il représente toujours les nouveaux riches et les riches. Et les pauvres sont toujours laissés de côté. Voilà, c'est des gens qui sont un peu fanatiques de Bolsonaro et de l'extrême droite. Et donc... Ils existent toujours, ils vont toujours essayer de se faire entendre. On verra après dans les prochaines élections, parce que moi, ce que je souhaite de plus profond de mon cœur, c'est que Bolsonaro ne revienne pas comme candidat. Que quelque chose se passe et qu'il y ait d'autres personnes qui émergent dans la société et dans le monde politique pour conduire le pays avec des mesures et des projets qui soient un peu plus égalitaires. Peut-être c'est naïf, c'est un rêve, mais on verra bien.
Et Bolsonaro n'a pas une place importante parmi les classes populaires, d'après ce que tu dis?
Bolsonaro,
ouais.
Oui, il est là, chez les fanatiques religieux, parce que lui, il s'est lié beaucoup avec les églises évangélistes, donc il domine un peu ce secteur avec des démonstrations, des faits, des fois un peu hystériques. Et malheureusement, c'est chez les gens les plus démunis, les plus pauvres, qui a eu le plus facile de convaincre d'y adhérer à une cause avec des promesses vaines et vides de paradis, de on va vous aider, il a acheté le vote de beaucoup, des milliers de personnes de la classe pauvre, vraiment pauvre, misérable, avec un poulet, avec des courses, avec des choses de ce genre-là. C'est incroyable, mais ça existe et ça se passe encore.
Alors dans l'actualité aussi, enfin en France, puisqu'on n'entend pas toute l'actualité, les feux de forêt, c'est vrai qu'on en entend peu parler ici, par exemple. Il y a une chose dont on a pas mal entendu parler, c'est le blocage du réseau social X.
Oui, oui, oui.
Est-ce que tu as tu peux nous expliquer, en fait, parce que...
Ouais,
c'est assez intéressant, en fait, pourquoi ça a été bloqué.
Lula, il se positionne sur des sujets qui d'autres leaders n'arrivent pas à se positionner. Lui, il se positionne. Moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'informations à ces sujets-là. Je ne sais pas si ça a duré, si ça continue encore, parce que c'est X, ça ne m'intéresse pas. Et moi, je ne suis pas à l'actualité de ces genres-là. Et ma famille, elle ne m'a rien dit de tout ça, parce que moi, je suis en contact avec eux. Donc, je ne sais pas. Mais je sais, par contre, que Telegram, qui c'est aussi un autre fléau, il est beaucoup, beaucoup utilisé au Brésil par les gens de l'extrême droite.
Le peu que j'ai pu lire, c'est pareil avec X, en fait. C'est qu'ils avaient donné la parole à beaucoup aux partisans de Bolsonaro et que c'est pour ça que le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, a...
Ouais. Mais entre donner la parole et donner la parole des haines, des violences et du mensonge, il y a une grande, grande différence. Donc, donner la parole, je pense qu'on a donné la parole à tout le monde.
Mais là, c'était une parole de haine.
Ouais, ici, la justice, elle a intervenu, c'est parce qu'il y avait raison d'eux. Voilà.
Alors, la deuxième partie de notre émission va être plus sur ton parcours. Et avant, on a fait un petit point. Si ça pourrait être intéressant au niveau géographique, de juste peut-être si tu peux resituer le Brésil et les frontières avec quel pays le Brésil a des frontières.
On a des frontières avec beaucoup de pays.
Oui,
ouais.
Presque tous les pays d'Amérique latine.
D'Amérique latine, ouais. Donc, dans le sud du Brésil, d'où je viens, on a frontière avec l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. Après, plus au nord, on a la Bolivie, la Colombie. Là, la géographie, ça va me prendre là. Ma mère, elle était prof d'histoire géo. J'ai honte. Non, mais le Brésil, c'est un pays qui est constitué de 27 États. C'est une république fédérative avec 26 États, pardon, et un territoire qui est la capitale, Brasilia, qui est le plus gros pays de l'Amérique latine. Les frontières, là je ne peux pas te citer toutes les frontières parce que ça ne m'y vient pas.
Apparemment, il a des frontières avec tous les pays d'Amérique du Sud sauf
le Chili
et l'Équateur.
Et l'Équateur, je crois.
Ça, c'est l'Amérique centrale, mais.
L'Amérique centrale.
Ok. Le Chili, pour moi, c'est un peu derrière. Ouais, c'est beaucoup, c'est énorme. Ouais. Et le Brésil, en territoire, il fait 17 fois la surface de la France. Donc, il faut imaginer que pour gouverner un gouvernement central, seul ne peut pas gouverner un pays géant comme ça. Donc, c'est pour ça que chaque État, il y a des pouvoirs aussi, des conseils qui sont conseils élus par la population, pour administrer les États et après les villes. Dans chaque ville, il y a un maire, mais il y a tout un conseil qui est responsable, le conseiller de l'éducation, comme ici on peut, mais avec des prérogatives propres à chaque État.
Et c'est intéressant parce que la géographie montre à quel point la gouvernance du Brésil est forcément délicate et que
forcément délicate.
Avec un territoire aussi grand, les inégalités, cette question-là se pose forcément.
Ouais, il y a un gros problème pour moi, à mon point de vue, qui est le fait de l'arrivée dans les années, je pense qu'il y a 25 ou 27 ans, l'arrivée de la religion évangélique, tous les évangéliques et les pasteurs qui sont arrivés comme députés petit à petit, députés nationaux, pas qui est régional, mais national, dans le pouvoir exécutif du pays. Ça a changé énormément de choses et ça a ramassé beaucoup d'argent qui est parti du pays dans des avions, dans des mallettes, l'argent des gens qui ont donné à l'Église et qui ont donné à ces gens-là, ces pasteurs, ces personnes qui sont arrivées au pouvoir et qui parlent de Dieu à tout bout de champ. À chaque phrase, ils parlent de Dieu. Dieu fera, Dieu est grand, Dieu va résoudre. On a foi en Dieu. Et c'est qu'il y ait du discours vide de sens pour attraper une grande masse d'électeurs et pour convaincre les gens et pour faire peur aussi. C'est des discours de peur. Peur et culpabilité.
Et qui divulgue un peu dans tous les pays aujourd'hui.
Oui,
c'est terrible.
Oui, c'est terrible.
Et qui représente à peu près 30%, un petit peu moins de 30%, il me semble, dans la religion du Brésil, qui est quand même majoritairement
exactement.
Catholique, hein, plus de 50%, mais effectivement.
Mais l'année dernière, j'ai lu quelque chose, à 89% de du pouvoir exécutif au Brésil, elle était dominée par des représentants des églises évangélistes.
Et oui, c'est ça, s'ils ont les postes au pouvoir.
Oui.
Après ce rappel géopolitique du Brésil, quelle musique parmi celles que tu nous as conseillées tu aimerais entendre?
Là, ça serait une chanteuse que j'ai découverte ici en France. Elle habite à Paris. Elle s'appelle Flávia Coelho et c'est Mama Santa.
Eh bien, on y va.
Caminhei a duras penas na ladeira da ilusão, viu? Um dever, questão de honra, sobreviver. Pra que perder a razão? Eu me prometi nunca mais. Adicionei ritos e lendas, neutralizei marcas e fendas, defini um mundo novo à base de oração. É. Pago o preço, deambulação mental, viu? Apagar velhos costumes, me desfazer. Pretendo me perdoar, quem sabe poder ser feliz. Cicatrizar marcas feridas, eliminar dores sofridas, definir um novo mundo à base de oração. É. Oh, oh, Mama Santa, Aparecida da Providência.
Vamos.
Oh.
Dinara, qui est notre invitée aujourd'hui, qui vit à Cray et qui vient du Brésil, dans l'émission Ici et d'ailleurs, toujours sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Dinara, est-ce que tu peux nous dire de quoi parlait cette chanson?
Elle cite dans la chanson, elle parle de la résilience des femmes, des mères. Et elle donne le nom à cette mère dans la chanson, des Mama Santa Aparecida. Au Brésil, on a une sainte qui s'appelle Nossa Senhora Aparecida. L'histoire, c'est des garçons qui ont trouvé au bord d'un fleuve une image d'une sainte noire. Et c'était une époque où, le racisme, il existe toujours, mais le racisme, il était très présent. Et donc, il commençait à avoir des miracles autour de cette image. Et elle était canonisée. Et aujourd'hui, il y a un jour férié au Brésil national pour Nossa Senhora Aparecida. Donc, c'est cité, il s'est connu comme la sainte de la résilience. Voilà. Ici aussi, c'est le nom de l'école où je fais de la maternelle jusqu'au lycée. C'est le même établissement, Nossa Senhora Aparecida. Donc, ça me fait des sacrés souvenirs.
Eh bien, c'est une très bonne transition que tu as faite pour passer la parole à Sylviane,
oui.
Pour aborder ton parcours.
D'accord.
Voilà, Dinara, on va parler maintenant de ton, si tu en es d'accord, bien sûr, hein, toujours, oui. De ton départ du Brésil. Pourquoi?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ton arrivée en France, peut-être tes premières impressions?
Je suis arrivée en France la première fois en vacances. J'avais rencontré mon ex-mari au Brésil. Je me suis mariée et donc je suis arrivée ici et on a décidé d'y habiter.
Ton mari était français?
Oui, oui, oui. Et on a décidé d'y rester ici, d'y habiter. Mais le début, il était assez compliqué pour moi parce que je suis arrivée... dans une période où le temps, il était gris. Pour moi, tout était gris. C'était un choix, hein, parce qu'il y a une différence entre un exil choisi, un exil pour des conditions compliquées ou pour des gens qui viennent des pays qui sont en guerre ou qui ont des difficultés à vivre. Moi, je choisis de venir ici et en même temps, je n'étais pas heureuse. Donc, un an plus tard, nous sommes partis au Brésil habiter là-bas. Parce que je ne pouvais pas. C'était trop fort pour moi de ne pas être à côté de ma famille, de mes amis, de mon pays. Et je trouvais que Cray était trop gris.
Et tu es arrivée en France où?
À Cray.
Ah, tu es arrivée directement ici?
Directement à Cray.
Parce que ton mari était de la région?
Oui, oui.
Ah oui, voilà, d'accord.
Oui, oui, c'est ça.
Donc, ton mari est reparti au Brésil avec toi?
Oui, il est reparti avec moi. Donc, j'ai été propriétaire d'un café là-bas, sur une île qui s'appelle Florianópolis. Sur laquelle je vais retourner là bientôt pour des vacances. Et nous sommes restés un an et demi là-bas. Après, on était obligés de rentrer pour des questions d'ordre privé de son côté à lui. Donc, nous sommes rentrés en France et je finis par rester là. Mais c'était une adaptation rapide, mais en même temps intérieurement assez douloureuse d'une certaine manière.
Aujourd'hui,
je dis ça ouais. Aujourd'hui. Hein.
Ouais. Douloureuse parce que tu étais loin de ta famille?
Oui, parce que c'était compliqué. Je suis arrivée ici il y a 22 ans, donc pour téléphoner, je devais acheter des cartes, je n'avais pas encore des portables qui pouvaient appeler tout le temps.
C'est vrai que c'était
plus dur. On n'avait pas WhatsApp. Les choses elles ont évolué très rapidement et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais à l'époque, pouvoir parler avec ma mère, mon père, c'était assez dur. Il fallait aller à côté de l'église où il y avait un téléphone public et prier pour que le téléphone marche.
Ouais, on ne se rend plus bien compte maintenant.
On ne se rend plus bien compte, exactement.
Il
me semble que c'était hier.
Ouais. Tu parlais français couramment quand
non,
tu es arrivée?
Pas
non,
du tout.
Il y avait en plus ce problème de langue. Quand
oui,
même.
Oui, ouais. Il y avait ce problème de langue. Mon ex-mari parlait que portugais avec moi parce qu'il avait vécu dans des pays de langue portugaise. Et donc, je commençais à travailler une semaine après mon arrivée ici, la deuxième fois, quand nous sommes rentrés du Brésil. Je commençais à travailler et c'est le travail, c'est le contact avec les gens. Et ma curiosité, mon besoin de parler et de vivre, de rencontrer des gens,
ouais,
et tout
ouais.
Ça, qui m'ont obligée à apprendre, voilà.
Et tu as eu des problèmes, tu as eu des enfants après ?
Non.
Non, tu n'as pas d'enfants ?
Non.
Est-ce que tu as eu, les relations avec les gens à Cray, est-ce que ça, ils étaient très différents des Brésiliens en fait ?
Oui.
Parce qu'on dit que le Brésilien est un peuple très chaleureux.
Oui.
Et est-ce que tu as retrouvé ça ou pas du tout ?
On ne peut pas généraliser ces questions-là, mais il y a une vraie différence, une forme de distance polie. Nous n'avons pas trop là-bas. Là-bas, les gens parlent fort, ils parlent avec les mains, ils prennent de l'espace. Et ici, une forme de discrétion, c'est ça que je voyais à l'époque. Aujourd'hui, ça passe parce que je pense que moi, j'ai acquis aussi des habitudes assez françaises. Mais au début, c'était compliqué pour moi. Et je travaillais dans un café, donc on est un peu sur une scène. Donc dès que j'ai ouvré ma bouche pour dire un mot, dire bonjour, les gens, la première chose qu'ils disaient, ah, vous avez un accent. Oui, 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 j'ai un accent. J'entends jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça va, ça passe. Mais à l'époque, c'était
plus compliqué à l'époque.
C'était plus compliqué,
tu penses, ouais.
Oui. Mm-hmm. Oui, exactement. Après, je découvre ici aussi une vraie solidarité.
Oui, tu as retrouvé quand même un esprit un peu... Tu as été acceptée facilement.
Oui. Oui, parce qu'il y a un côté, quand on vient du Brésil, qui est... C'est bizarre de dire ça, mais c'est comme si on était accepté par tout le monde quand on vient du Brésil.
C'est un pays qui fait rêver beaucoup
c'est
de monde.
C'est un pays qui fait rêver beaucoup de gens, exactement.
On a tous envie d'y aller, en fait. Oui. Hein. Donc, quelqu'un qui vient de là-bas...
Je suis partie avec des amis là-bas. J'ai amené des amis d'ici, là-bas, pendant un voyage en 2018, je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Et ils ont adoré, vraiment.
Ah oui. Ouais. Moi, j'y suis allée 5 semaines il y a très longtemps, hein, quand j'étais jeune. Et c'est le plus beau voyage que j'ai fait. Quoi. C'est un peuple. Et puis surtout, c'est un continent.
Oui.
Donc en fait, à l'intérieur d'un même voyage, on va en Afrique, on va en Amazonie, on va à Rio.
On découvre énormément des parfums, des goûts différents. Moi, ce qui me manque au Brésil, c'est les arbres, les oiseaux, quand on passe dans une rue où il y a énormément d'arbres et d'oiseaux, et la lumière du soleil là-bas, pour moi, elle est différente d'ici. Donc, il y a plein de choses qui me chauffent le cœur quand je retourne là-bas.
Et tu arrives à retourner régulièrement ?
Oui, là, la dernière fois que je suis allée, c'était en 2022. Là, j'aurais bien aimé pouvoir aller cette année, je n'ai pas pu, mais ça sera à la fin de l'année. Voilà.
Et ta famille est venue en France ?
Oui, mon frère est venu avec sa femme et sa fille, qui maintenant habite en Allemagne, ma nièce. Et ma sœur, elle est venue ici. Une de mes sœurs est venue avec ses deux enfants. On a fait un bon périple en France. Nous avons loué un camion et on est parti. On a loué 9 places. On est parti faire un peu le tour pour leur montrer un peu la France. Ils étaient émerveillés.
Oui, ils ont apprécié quand même.
Oui, parce qu'au Brésil, pour changer des paysages et même d'accent, et même des nourritures, et même beaucoup de choses, il faut faire des milliers de kilomètres.
Oui, c'est tellement grand.
Et ici, on fait 200 kilomètres, il y a tout qui change. On passe de l'autre côté, on va à Grignan, on est déjà presque, on est en Provence. Mmh. Le paysage, il est différent. Le coucher de soleil, il est un autre aussi. Je ne sais pas. Et c'est ça qui, pour nous, pour eux, ça a été hyper, hyper impressionnant.
Oui. Et est-ce que tu ressentirais, enfin, je ne connais pas vraiment la vie au Brésil, mais une liberté différente ici ? Ou il y a une liberté au Brésil de la même manière qu'en France ?
Ça dépend de quel type de liberté tu
parles. Je ne sais pas, la liberté, bon, je pense que la liberté politique, vous l'avez. Oui. La liberté par rapport, je ne sais pas, à l'avortement, au divorce, ça reste quand même.
Moi, je me suis libérée de beaucoup de préjugés. Je grandis dans une famille catholique. Mon éducation, elle était à côté de l'église de la ville. On allait à l'église tout le temps et j'ai jamais trop cru à ce qu'on me racontait. Et j'ai découvert ça plus tard en arrivant ici. Là-bas, l'avortement, il est interdit. La liberté politique, oui. Oui, on a connu la liberté politique, mais assez tardivement, parce que moi, je suis née à une époque où il y avait une dictature militaire au Brésil. Donc, je m'en souviens d'aller à l'école et des quand un militaire qui était président passé avec des voitures et son comité des voitures dépassées et être avec un petit drapeau. Ah oui. Aujourd'hui, je vois ça en Corée du Nord. Les gens font ça en Corée du Nord, d'idolâtrer un président et un pays avec une image. Donc ça, ils discutaient d'avoir de longues discussions sur la politique, sur la religion, sur le mode de vie qu'on a envie d'avoir. Ça, j'ai découvert ici. Même j'étais dans un milieu qui ma mère, elle était enseignante, elle avait une vraie conscience politique, mes grands-parents aussi, et j'étais dans un milieu où on pouvait parler de ces choses-là, mais c'était assez restreint. Ici, c'est différent. La liberté, elle va beaucoup plus loin. Mmh. Elle pousse un peu plus les portes.
D'accord. Voilà. Et alors, donc, on va parler de quelque chose qui t'est arrivé ici. Donc, tu as divorcé, ce qui a dû quand même, par rapport à ce que tu viens de dire, choquer ta famille, peut-être, non ?
Non, 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 ça s'est bien passé ? Non, ma famille, elle a toujours souhaité mon bonheur.
Donc, il était temps que tu divorces.
Oui.
Tu divorces, tu as des problèmes de papier à cette époque-là,
oui.
Puisque tu n'étais pas naturalisée encore.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Parce que Cré t'a aidé, enfin, certaines personnes de Cré t'ont aidé, on va dire.
Je demandais le divorce. Je suis allée à la préfecture pour demander un changement de statut, pour passer du statut des travailleurs, des conjoints des Français à travailleurs émigrés. Parce qu'à cette période-là, j'étais en CDI au Globe, au café de Globe à Cré. Et je reçus une semaine plus tard une OQTF. Donc ça m'a un peu désespérée. Et je venais de rencontrer mon conjoint. Et c'était une période assez difficile, mais j'ai eu énormément de soutien. Il y a eu des manifestations dans la rue, il y a des pétitions qui sont venues d'un peu partout. J'étais aidée par l'ASTI, l'Association de soutien aux travailleurs immigrés, à travers, à l'époque, il y avait Inacio Bertolino qui s'occupait de ça. Et Jean Serret, qui était mon parrain républicain. Mais j'ai reçu des lettres de soutien des députés de tous bords.
Et comment ça se fait que c'est parti comme ça, là ?
C'est parti comme ça parce que je suis allée à la radio, aux journaux. Et j'ai un ami qui travaillait comme caméraman à France 3 et qui m'a dit il faut faire un sujet parce que c'était en pleine période où Brice Hortefeux, il avait un quota d'expulsion donné par Sarkozy et qu'il devait expulser 29 000 personnes à la fin de l'année. Il était à 26, 27, si mes souvenirs sont bons. Et donc, tout était bon à prendre. Donc, quelqu'un qui arrive et qui dit je veux changer mon statut. Vous avez des enfants en France ? Je dis non. Ben alors, vous n'avez pas d'intérêt à rester là. Pourquoi rester là ? Rentrez chez vous. Je dis, mais ce n'est pas à vous de décider le jour où je rentrerai chez moi. Franchement, c'est pas possible. Et donc, je me suis défendue. Et il y a pas mal de personnes qui sont venues me défendre aussi. C'était une période qui était intense et belle, et difficile à vivre. Mais le jour où France 3 est venue me voir, ils m'ont suivi toute la journée. Et ils ont envoyé une équipe à Paris, à l'Assemblée nationale, pour interviewer M. Mariton, qui était député à l'époque, pour lui demander pourquoi, parce que moi je dis le gouvernement il va analyser cas par cas, donc c'est la promesse de président de Sarkozy, analyser cas par cas, donc dites-moi pourquoi je dois partir, je travaille, je parle français, je suis intégrée, et voilà. Et donc s'il y a eu une soirée au Transexpress, Gilles et Brigitte se sont démenés pour faire une super soirée, c'était vraiment génial.
Tu as été bien soutenue.
Oui. Même si la gendarmerie passait tous les jours devant mon local de travail. Oui. Parce que, oui, bien regardé, parce que quand on a un OQTF comme ça, la gendarmerie, elle est informée.
Je rappelle pour les auditeurs, excuse-moi, je te coupe, l'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français.
Oui, c'est un document qui est envoyé par la préfecture et qui nous donne un mois pour quitter le pays. Donc, J'étais pas prête à partir. J'ai dit pendant l'interview, pendant plusieurs interviews qu'on a fait, j'ai dit ce que je ressentais, et je pense la même chose aujourd'hui. J'ai pas choisi de venir ici. Je suis venue parce que j'étais mariée. Je choisis de rester. Je n'ai pas choisi de venir, moi, je choisis de rester. Et c'est à moi et à personne d'autre de décider si je dois partir ou pas. Tant que je suis en accord avec ma vie, avec la vie de la République, pourquoi m'expulser? C'était ça ma question à l'époque. Donc, l'équipe qui a été envoyée à l'Assemblée nationale, elle a parlé avec M. Mariton. Et le jour même, il y a son chef de cabinet qui m'appelait en me disant d'aller à la préfecture le lendemain pour avoir mon titre de séjour.
Ah ouais, comme ouais. Quoi ça peut être...
Non, c'était vraiment une aventure, quelque chose d'impressionnant qui m'est arrivé parce que j'ai découvert une solidarité énorme. Vraiment.
Ça t'a aidé à passer cette période.
Pardon. C'est souvent ça c'est souvent la solidarité et les manifestations.
Oui. Ouais, ouais.
C'est pas ça sûr change qu'en allant voir ouais. Monsieur Mariton comme ça, ça serait arrivé.
Parce que je suis allée le voir. Je suis allée le voir avant. Le jour où j'ai eu ces problèmes-là, je suis allée le voir. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Et qu'il a contacté la préfecture, il a appelé la chef du bureau des étrangers, mais il n'y a rien qui s'est passé. Donc, comme le temps est passé, c'était très rapide, parce que je croisais ces gens-là au Globe tous les jours, et je racontais, je dis que j'étais dans cette situation, et ils m'ont dit non, on te prend son hôtel et tu viens, et on va faire tout le nécessaire. Donc, on a fait mon dossier, je paye un avocat pour me défendre, pour envoyer mon dossier à Grenoble. Et donc, c'était en un mois, ça durait un mois exactement. Et
un mois très intense.
Un mois très intense, vraiment. Très intense. Vraiment très intense. Et restait encore une semaine pour que je sois obligée de quitter la France. Voilà.
Bon. Une belle histoire.
Et depuis, les choses vont beaucoup mieux. J'ai des cartes de 10 ans. Et là, j'ai mon dossier qui était envoyé à la préfecture de l'Isère pour attendre une convocation pour une interview en vue de la double nationalité. Ça n'a jamais été important pour moi d'avoir la nationalité. Je voulais juste être libre de vivre ici, de choisir ma vie.
Tu fais le choix quand même de la demander là.
Oui. Ouais. Pourquoi pas? Tout le monde me demande, mais il faut que tu puisses voter. Les gens me disent ça, il faut que tu puisses voter. Parce qu'à chaque campagne, je suis là, je me ronge les ongles, j'ai envie de participer, j'ai envie de faire des choses, mais je ne peux pas.
C'est important de voter. Bon, on va faire juste une petite parenthèse quand même. C'est important de voter malgré que les résultats ne sont pas pris en compte en France.
Oui,
mais
on espère qu'une prochaine fois,
ça sera pris en compte.
On vit une drôle d'époque. Hein.
C'était
vraiment
incroyable.
Incroyable.
Est-ce qu'on passe une petite musique ou est-ce qu'on continue?
On peut passer une petite musique. Laquelle te ferait envie d'écouter?
Chega de saudade. Antônio Carlos Jobim. Chega de saudade.
Tu peux nous traduire le titre?
Oui. Ça suffit, la saudade, la nostalgie. Elle est très belle, cette chanson. Uma prece que ela regresse, porque eu não posso mais viver. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há tristeza. Só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Mas ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
Dentro dos meus braços, os abraços de ser.
Sur Radio Saint-Ferréol 94.2 et nous sommes avec Dinara qui habite à Cray et qui vient du Brésil.
Alors Dinara, on va essayer un peu maintenant peut-être de philosopher, c'est un bien grand mot, mais quand on t'a vu la première fois, tu as dit cette phrase qui nous a toutes marquées, choisir c'est perdre.
Ouais, je lis ça quelque part.
Et André Gide a dit, lui, choisir, c'est renoncer. Ouais. Donc ça fait un peu la même chose,
ouais,
on va
ça
dire.
Ça fait un peu
la
même chose, oui.
Et donc, je voudrais que tu nous... Voilà, tu nous expliques un peu ce que tu voulais dire par rapport à cette perte ou à ce choix.
Ouais. C'est que le choix de vivre loin de sa famille, de son pays, c'est un choix qui arrive. Il m'a tombé dessus, ce choix-là, et je décidais de l'embrasser, embrasser ces changements de vie. Et on sait pas ce qu'on gagne, on sait ce qu'on perd. Et ça, on ressent dès le début. Parce que c'est toute une nouvelle construction quand on arrive dans un autre pays. C'est la langue, les mœurs, les coutumes, la façon de parler, la façon de se comporter, la façon de communiquer, la nourriture, c'est quelque chose qui change énormément aussi. Le fait d'arriver, c'est une chose qui est drôle. Moi, j'ai toujours eu l'habitude, quand j'ai envie de voir mes amis, d'aller chez eux. Au Brésil, c'est comme ça. On n'annonce pas, on passe. On passe. Si la personne est là pour nous reçoit, si elle ne peut pas, elle a dit « Ah là, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. » Mais c'est quelque chose qui est un peu culturel, qui se fait. Et ici, je sentis qu'il fallait prévenir les gens. Il fallait demander.
C'est vrai, ouais. On est moins naturel de ce côté-là.
Ouais, je peux passer. Est-ce que je te dérange? Tu ne déranges pas? Il y a toujours cette sensation de déranger. Et je pense que je me suis un peu fondue dans ces comportements-là. Parce que peut-être c'est dans ma nature. Et je commençais à aimer le pays, je commençais à aimer les gens, à aimer la nourriture, à aimer la musique. Donc je me suis bien fondue dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau pays. Par contre, je n'ai pas vu mon neveu, mes nièces grandir. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai perdu pas mal de contacts. J'ai encore des 3 ou 4 bonnes personnes de mon passé qui, à chaque fois que je vais au Brésil, on se voit et c'est une joie. Mais on rate beaucoup de chapitres.
Oui, tu as perdu ta vie là-bas, malgré tout.
Ouais.
Même c'est pour si ça tu as une vie ici, la vie là-bas te manque toujours.
Ouais. C'est pour ça que l'année dernière, quand ma nièce, qui est en Allemagne, qui est de São Paulo, mais qui est en Allemagne, qui vit là-bas et qui travaille là-bas, elle a rencontré un garçon libanais en Allemagne et ils ont fait leur mariage au Liban. Ils ont fait les fiançailles au Brésil, le mariage au Liban. Et moi, je dis à mon chéri, je dis, on va y aller au Liban, on va aller au mariage. J'ai raté trop de choses, d'événements, de famille. Je ne rate pas celui-là. C'est pas très loin, on y va. Et parce qu'on a cette sensation très forte de non-appartenance.
Ah oui.
Ouais.
Oui.
C'est
d'être entre deux mondes,
exactement.
Ouais, tu es entre deux mondes.
Ouais. Ouais. Et quand tu es en contact avec ces mondes qui t'a laissé là, et tu sens qu'il y a des choses qui t'ont échappé, ou des choses merveilleuses que tu n'as pas vécues, ou des choses tristes que tu n'as pas vécues non plus, avec les tiens, comme on dit, c'est toujours un petit choc, c'est toujours un petit rappel. Ouais.
C'est ça la perte.
C'est ça que le choix il fait. Hein. C'est ça.
Alors, en fait, choisir, on dit toujours que choisir, ça déclenche une frustration. Parce que c'est vrai que tu as choisi de venir, comme tu dis, pour ton ex-mari.
Ouais.
Maintenant, apparemment, tu as refait une vie qui te plaît et dans laquelle tu es bien. Mais il y a toujours cette frustration qui fait que tu n'as pas tout, en fait.
Oui, j'ai pas tout. Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup la musique. J'essaye de me tenir un peu informée. La culture, ça m'a échappé un peu aussi. J'ai eu l'opportunité de partir au Brésil en 2009 avec le Transexpress. J'ai travaillé pour l'organisation de la tournée dans le cadre de l'année de la France au Brésil. Et donc, j'étais en contact avec des gens qui sont dans le bouillon du culture du Brésil, qui construisent la culture d'aujourd'hui dans 3 grandes villes. Et c'était assez intéressant et ça m'a fait revivre des choses d'une autre époque de ma vie. Et c'était assez chouette. Mm-hmm. Ça fait du bien, ça.
Et comment tu te sens à l'inverse au Brésil quand tu y retournes?
J'ai besoin de 2 jours pour mettre mon logiciel à jour de beaucoup de choses, de la langue, de la construction des phrases, des mots que les gens utilisent aujourd'hui que je ne connais pas et que des fois il faut que je demande, des expressions, pas des mots, mais des expressions. Et aussi... le bruit, la fureur de vivre, ce bruit qui est constant et permanent un peu partout. Et ici, c'est plus silencieux. Il n'y a pas ce bruit-là. Au Brésil, sans dénigrer ce qui est la France, c'est bruyant de vie partout. Malgré les différences, malgré plein de malgré, c'est très, très vivant. Il y a une chose qui j'étais choquée aussi, vous allez trouver ça drôle, c'est que je ne pouvais pas étendre mon linge sur ma fenêtre. ça ne se fait pas. Il y a des villes qui interdisent et là, on m'a dit non, tu ne mets pas le linge sur le rebord de la fenêtre. Il faut avoir un étendage, il faut faire comme ci, comme ça, et ce n'est pas dans toutes les rues. Voilà, c'était mal vu.
C'est mal vu en France, souvent. Ouais. Mais il y a des endroits quand même où
Marseille,
ça peut se faire.
Marseille, à chaque fois que je vais à Marseille, quand on regarde ça, je regarde ça, je dis « Ah, trop bien, je me sens un peu chez moi ici. »
Je crois que Claire va te parler d'une autre manière de voir se choisir, c'est perdre.
Oh, vous avez déjà abordé beaucoup de choses, hein, je pensais, mais... C'est vrai que tout à l'heure, tu as dit le plaisir de retourner au Brésil quand il y avait la chanson là, sur Saudade, la nostalgie, etc. Mais hors micro, tu nous as aussi dit aujourd'hui le plaisir de revenir.
Oui.
Et donc moi, je me disais, dans choisir, il y a choisir, c'est renoncer, mais choisir, c'est aussi affirmer son choix,
oui.
affirmer sa vie, faire oui. preuve de... oui, d'une liberté, de se sentir responsable de celle qu'on choisit d'être aussi.
Ouais.
Et je voulais te demander ce que toi, tu choisis d'être ici, aujourd'hui, avec cette double culture.
Oui.
Ce qui est important pour toi, ta passion.
Ouais. Oui, je suis à 100% ici. Hein. Ma vie, elle a intégralement vécu ici, aujourd'hui, depuis 22 ans. Et c'est un choix éclairé, sans aucune culpabilité. Peut-être avec beaucoup de saudades. Saudades, cette nostalgie des choses qui nous ont rendus heureux, heureuses. Des choses qu'on a vécues avec les gens qu'on aime. Mais c'est assumé. C'est assumé, oui. C'est pas pour ça que c'est moins émouvant, moins nostalgique. C'est juste nostalgique. Ouais.
Il y a aussi toute une part que tu peux peut-être transmettre ou partager ici.
Oui, 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 bien sûr.
Alors, la fureur de vivre et le bruit et étendre le linge, peut-être pas. Mais il y a tu fais de la cuisine, par exemple, au club.
Oui,
chantes, tu nous as transmis là des merveilleuses musiques.
C'est une chose que j'ai toujours aimé, par exemple, faire de la cuisine chez mes parents. Dans les endroits où je travaillais, j'étais toujours un peu celle qui disait où on va manger, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on prépare. J'ai toujours aimé ça. Je sais pas. Pour moi, la cuisine, c'est l'endroit où il y a la vie dans une maison et tout le monde est... finalement, une maison peut avoir un très grand salon, mais si elle n'a pas une grande cuisine, il manque de l'espace. Et voilà, donc oui, j'ai des choses du Brésil en moi qui restent. C'est ce sens de partage, de partage des moments avec les gens. Là où je me sens plus heureuse aujourd'hui, c'est quand je suis avec mes amis et qu'on peut parler de tout et de rien. Et se chamailler un peu, se parler des politiques, parler des religions, parler des relations, parler des enfants des uns et des autres. C'est passer des moments ensemble, voilà. Peut-être c'est le temps qui passe aussi. Hein.
En tout cas, c'est très agréable de recevoir ta personnalité chaleureuse et de partager avec toi. Est-ce que
merci.
Vous avez d'autres questions à rajouter?
Moi, il y a une phrase en fait que tu as dit là tout à l'heure sur problème de mémoire, la retrouver que tu n'avais pas de culture. Oui, au lieu de dire que tu avais deux cultures,
oui,
tu as dit à un moment que tu n'en avais plus. Est-ce que c'est le sentiment que tu as ou est-ce...
J'ai des fois. Ça m'est arrivé de dire au Brésil, je ne suis plus brésilienne pour pas mal de raisons, pour des choses que je vous ai dit là, des mots, des changements des vies, de l'évolution de la société qu'on n'accompagne pas. Et je ne suis plus brésilienne au Brésil et je ne serai jamais française en France. Même si ma double nationalité elle arrive, il y a quelque chose en moi. Même avec tout l'amour que je porte aux gens, à ma vie ici, à ce que j'ai appris ici, je ne serai jamais française. Et ça, c'est une réalité. Mais c'est pas le plus... Comment expliquer ça? J'ai toujours dit parce que les gens parlaient beaucoup des racines. Ma mère, elle parlait beaucoup des racines, de rester là, parce qu'il faut cultiver ses racines. Et moi, je disais, je ne suis pas un arbre. Moi, je suis plutôt un oiseau. Laisse-moi m'envoler. Ces choix-là font qu'aujourd'hui, je ressens toutes ces émotions des fois au même temps. Mais je vis avec. Pour moi, c'est naturel, c'est normal. Il faut que c'est clair dans ma tête que au Brésil, c'est un peu mon origine. Là, c'était une année compliquée parce que j'ai perdu mon père. Ma maman, elle est décédée il y a 4 ans et mon papa est parti cette année. Donc, j'ai l'impression que le fil qui me liait à mon origine, elle était coupée. Mais j'ai encore mes sœurs, mon frère, neveux, nièces. J'ai une vie là-bas encore. J'ai des attaches. Mais ma vie principale aujourd'hui, elle est ici. Donc, j'assume les deux. Voilà. Et je compose avec. Donc, eux, ils viennent ici quand ils peuvent venir. Moi, je vais là-bas quand je peux aller. Et voilà. Et la vie, elle suit son rythme.
Est-ce que tu, dans un monde rêvé, je ne sais pas si ton compagnon te suivait, par exemple, est-ce que tu retournerais vivre au Brésil?
Des fois,
c'est une grosse question.
Des fois, on parle de ça, oui. Des fois, on parle de ça, oui. Ouais, ben écoute, jusqu'aux dernières nouvelles, il m'a dit que si on décide d'aller habiter au Brésil, on peut aller habiter au Brésil. Et moi, je pense ça pour plus tard. Parce que comme disait Charles Aznavour, la vie, elle est plus... elle est moins pénible au soleil.
Encore, c'est pas la pire région de France.
Oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est la limite du nord.
Oui.
Je peux pas aller plus au nord.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui n'a pas été dit, que tu aimerais rajouter, parce qu'on arrive à la fin de l'émission? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter?
Par rapport à ma vie ici ou au Brésil?
Ce que tu veux.
Waouh.
Avant de choisir une chanson pour la fin de l'émission.
D'accord. Alors.
Mais tu n'es pas obligée. Hein.
Ok. Alors, je ne suis pas obligée.
Si tu as l'impression que tu as dit ce que tu as parlé. C'est pour que tu ne sois pas frustrée, en fait.
Ouais.
Hein,
non, je ne suis pas. Non, je ne suis pas frustrée. C'est juste pour résumer toute l'histoire, je suis très reconnaissante à la vie. De m'avoir mis dans ce pays et de continuer toujours brésilienne. Voilà.
Merci beaucoup. C'est une belle conclusion.
Merci Dinara beaucoup pour ta présence. Mais
de rien, c'était avec plaisir.
Alors, je rappelle
quelle chanson?
La chanson oui,
Passe. Donc, avant de la passer, je rappelle aux auditeurs que c'était une émission d'ici et d'ailleurs, qu'un propos de Dinara me permet de faire une petite introduction par rapport au format qu'on va avoir cette année,
oui.
Notamment quand tu parlais de la double culture, parce qu'on a prévu dans nos émissions futures, pas la prochaine c'est sur l'Arménie, mais dans les émissions futures, on voudrait aborder aussi la question de la deuxième ou troisième génération qui pose beaucoup ce problème de double culture, enfin ce problème, ce fait de double culture.
Ok.
Plusieurs fois d'ailleurs dans l'année, une fois n'est pas coutume, au lieu de se centrer sur un invité, on essaiera de prendre un angle plutôt thématique.
D'accord.
Donc une fois peut-être la double culture, on a peut-être parler, si je peux le dire, de la deuxième génération, enfin de différentes thématiques. D'ailleurs, si certains auditeurs veulent nous soumettre des thèmes qui les concernent particulièrement, on sera toujours à l'écoute et on va essayer ça cette année.
Et dans le studio aujourd'hui, avec Dinara, il y avait Sylviane, Claire et moi-même Sarah.
Sarah merci. Qui a assuré toute la technique.
Oui, merci à vous et à bientôt.
Et merci Dinara.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Merci.
À bientôt.
Outro parceiro, João Donato. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão,
chuva sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais.